Donc, ce que j'ai pensé faire, OK? Parce que j'aimerais bien couvrir. Ben minimum, faut que je voudrais que minimum le déluge soit couvert, puis j'aimerais bien me rendre jusqu'à Genèse 11. C'est qu'est-ce que je voudrais faire? Moi, ça m'oublie. Ce que j'aimerais faire, parce que il y a beaucoup de choses, surtout au niveau d'enseignement théologique, d'enseignement sur la personne de Dieu dans les chapitres 3, 4, 5, OK? Ça, c'est une chose. Je voudrais au moins qu'on couvre le déluge, parce que on a mis beaucoup d'emphase sur la création, puis comprendre un petit peu la structure des choses que Dieu a mis en place. Sauf que c'est pas comme ça que c'est aujourd'hui. Puis c'est le déluge qui a changé ça. C'est que j'aimerais ça qu'on couvre le déluge, parce que le déluge va comme compléter l'image qu'on va avoir de la création. Puis si aujourd'hui on constate les choses, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une deuxième création, là, on s'entend, mais il y a eu certainement un deuxième événement planétaire. Si on considère la création comme un événement planétaire, mais la déluge en est un, puis il faut le couvrir. Il faut le couvrir, mais c'est pas quelque chose que... Le déluge, le récit du déluge, c'est pratiquement 3 chapitres, OK? Mais c'est beaucoup d'histoires dans les 3 chapitres. Je veux dire, il y a un gros paquet aussi quand il envoie des oiseaux, tout ça. C'est que le déluge comme tel, comme événement, je peux facilement couvrir ça en quelques cours. Ceci étant dit, donc, ce que je pensais faire... C'est que là, ce matin, j'avais un ou deux commentaires pour finir le chapitre 2, puis j'ai fini rapidement la semaine dernière. Je pensais juste vous diriger avec les deux lignes directrices dans chapitre 3, 4, 5, puis me rendre au chapitre 6 tout de suite, peut-être la semaine prochaine. Ça va quand même peut-être prendre un cours et demi. Je veux qu'on regarde deux choses dans les chapitres 3, 4, 5 et début de chapitre 6. Parce que si on les regarde pas, on va arriver au chapitre 6, puis il faut comprendre pourquoi que le déluge arrive. Là. Je veux dire, c'est pas juste arrivé comme ça. Pourquoi que Dieu en arrive à ce point-là de décider de juger la terre de cette façon-là, universellement. C'est que les deux thèmes que je vais vouloir regarder, celui qui est le plus important, là, à mon avis, ça c'est un point, si vous voulez bien comprendre la trame, le fil conducteur du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, il faut vraiment là, se rappeler de ça. Dès le chapitre 3, on va nous parler... Il va y avoir la prophétie qui va être annoncée à Ève lors des conséquences du péché, puis c'est une des premières annonces du Messie qui parle de l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, excusez-moi, comme quoi il va y avoir inimitié entre les deux descendances. C'est une déclaration, c'est comme une prophétie que Dieu fait, mais que finalement, là, tu sais, une des postérités va blesser le talon de la postérité de la femme, mais lui, il écrasera la tête du serpent. OK? Vous avez des serpents. Certainement déjà entendu ça à un moment donné dans un cours ou une prédication, qu'on a une première ici annonce de la venue d'un Messie. Il faut quand même décortiquer le verset, mais certainement que les anciens, les Israélites pouvaient voir dans ce texte-là une promesse à venir. Sauf que cette promesse-là de la part de Dieu, des deux descendances, c'est une prophétie en même temps comme quoi qu'il va y avoir opposition entre deux descendances, OK? Bonjour, M. Maltais. Donc, opposition entre deux descendances, c'est ça qu'il faut se rappeler. À partir de ce point-là, on va voir que le reste du chapitre 3, particulièrement le chapitre 4, chapitre 5, on va voir justement les deux descendances qui sont en train de vivre côte à côte, qui vont se développer. Puis Dieu est en train de dire, voici, il va y avoir une descendance du serpent, là, je vais vous revenir avec ça, il va y avoir une descendance de la femme, il va y avoir opposition entre les deux. Puis on va tout de suite voir cette opposition-là entre Caïn et Abel, qui vont d'ailleurs personnifier chacun la descendance des justes, si on veut, puis la descendance des injustes. Après ça, on va se ramasser dans le chapitre 4, où est-ce qu'on va voir toutes les descendances des Cainites, tous ceux qui ont descendu de Caïn, puis qu'est-ce qu'ils ont accompli dans la vie, dans les générations qui suivirent. Puis tous ceux qui ont descendu de Seth, qui était le fils qui a été donné à Ève pour remplacer Abel, puis qu'est-ce que eux ont marqué leur génération, les générations qui ont suivi Seth. Puis après ça, le chapitre 5, on a les généalogies justement de la descendance de Seth. Puis là, on arrive au chapitre 6. Puis là, c'est là que je crois que si on suit bien le fil conducteur de l'auteur, de l'éditeur, on va arriver et on va mieux interpréter le début du chapitre 6. Ce que dit, ça dit que les filles des hommes, une fois que les filles des hommes eurent donné des... faudrait que je leur lise comme il faut, là, mais que les fils de Dieu ont trouvé chez les filles des hommes des filles qui leur plaisaient, tout ça, puis ils ont commencé à se marier avec, etc. Le début du chapitre 6, faut vraiment l'interpréter avec ce fil conducteur-là qui nous amène au chapitre 6. Parce qu'au début du chapitre 6, il va arriver quelque chose de... Ça va être comme j'allais dire une autre expression, la cerise sur le sundae, pour utiliser une expression. Ça va être la cerise sur le sundae de le climax, l'apogée du péché. Là, okay? Puis à ce moment-là, Dieu va décider, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, ne restera pas toujours dans l'homme. Puis ses jours sont de 120 ans. Puis là, il va déclarer la venue du déluge. Mais pour arriver au chapitre 6 puis comprendre ce qui se passe, il faut juste avoir vu que dans le chapitre 3, 4, 5, c'est en train de bâtir ça. L'opposition entre les deux descendances. Une descendance qui invoque le nom de l'Éternel, une descendance qui a mis l'Éternel de côté dans ses projets, puis que c'est une descendance qui se concentre sur les accomplissements humains, les accomplissements que l'homme est capable de faire. Au pire, je dirais une descendance humaniste, mais une autre descendance qui invoque le nom de Dieu. Donc, 3, 4, 5, j'aimerais ça que surtout qu'on voie ça, je vais en reparler, puis qu'on voie aussi à travers ça, parce que ça, c'est l'autre point qui est super important, c'est qu'on voit à travers ça, Dieu n'arrête jamais d'être le Dieu bon puis le Dieu gracieux qu'on connaît même aujourd'hui à travers Jésus. C'est le même Dieu à l'époque puis c'est le même Dieu qu'on voit. Des fois, on va se rappeler de Dieu a jugé la terre avec le déluge puis on se rappelle du Dieu juge. Ce qui est vrai, là, Dieu a amené une punition. Il y a eu jugement pour le péché. Sauf que, qu'est-ce qui est encore plus marquant dans le récit du déluge, c'est qu'il a sauvé, à cause d'un homme qui a trouvé grâce à ses yeux, il a sauvé l'espèce au complet. Et les animaux au complet aussi. Puis ça, je pense que c'est le point qui est pas mal plus marquant que le point du jugement. Oui, le point du jugement, il est là, c'est clair. Mais on a le point de la grâce à ce point-ci. Dieu a pas tout décimé, OK, à cause d'un seul homme qui a trouvé grâce à ses yeux. Et ce thème-là de la bonté et la grâce de Dieu, on le voit tout de suite après le péché, comment Dieu se comporte avec Adam et Ève après qu'ils ont péché, comment Dieu va leur donner les conséquences, la façon qu'il s'y prend. On lit vite ces textes-là, mais des fois, nous, on n'aurait certainement pas agi comme Dieu si on avait été à sa place, mettons, puis il y aurait eu ce qui est arrivé avec Adam et Ève. T'sais, Dieu arrive avec sa voix dans le jardin. Où es-tu, Adam? Moi, j'arrivais avec ma main, puis j'aurais ramassé. Mais, t'sais, où es-tu, Adam? Dieu est déjà dans son cœur en train d'initier, juste par sa question, il est en train d'enseigner Adam. Parce qu'Adam, il s'est caché parce qu'il était tout nu avec sa femme. On voit déjà Dieu agir avec grâce juste dans son intervention. Mais ça, c'est ça, je veux qu'on le voit aussi dans les chapitres. Comme je vous dis, on ne passera pas verset par verset, mais on va juste passer ces sujets-là. Puis on va voir la grâce de Dieu, comment il a réagi avec Caïn après que Caïn a tué son frère. Des fois, on lit vite le texte, mais Dieu est énormément gracieux avec Caïn. Puis, puis évidemment, la période de grâce amenée de Dieu envers l'espèce humaine va atteindre une limite dans Genèse 6, que là, Dieu va décider de juger. Mais encore, il va juger en sauvant quand même la race à cause de Noé. Donc, est-ce que je vous ai mélangé ou c'est clair? C'est quoi à se rappeler? C'est les deux descendances. Suite au péché, il va y avoir des êtres humains que leur vie va être marquée parce qu'ils vont décider d'invoquer l'Éternel. Il y en a d'autres qui vont décider de pas le faire. Puis vous comprendrez que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça. Il y a l'Église, il y a l'épouse de Christ qui a été rachetée, puis par la grâce de Dieu, nos yeux ont été ouverts, le voile est tombé, on a compris la grâce. Puis t'as les gens, puis tu sais, si t'es pas enfant de Dieu, t'es enfant du diable encore aujourd'hui. Si t'es pas sous la domination de Dieu, t'es sous la domination du diable. C'est la même réalité aujourd'hui qu'à l'époque. Ça a commencé à l'époque avec l'entrée du péché dans le monde. Donc, c'est ça, je pense, qui va être à retenir de ces chapitres-là. Mais on va pas s'arrêter dans tous les détails du péché, comment le péché s'est produit. On y reviendra au pire, OK? Si je vois qu'on a du temps l'année prochaine, en 2013, ça va bien. Il y a un petit questionnaire ici. On y reviendra l'année prochaine, sur un peu plus de détails dans les chapitres 3, 4, 5. Mais au moins, on va s'être rendu au déluge, puis on va avoir couvert idéalement la tour de Babel. L'autre chose avec la tour de Babel, c'est que la tour de Babel explique quand même beaucoup de choses. C'est que je voudrais m'y rendre pour expliquer toute la question des nations puis les différents peuples. S'il n'y a pas de questions, je voulais juste terminer avec un point que j'ai dit trop rapidement la semaine dernière à la fin du chapitre 2. Y a-t-il des questions à ce point-ci? Fin du chapitre 2, on parlait de la création de la femme à ce point-ci. Puis je voulais juste mentionner ce point-là, puis ça, on va clore le chapitre 2, parce que c'est un point qui a souvent été utilisé comme une contradiction. Fait que je l'ai mentionné rapidement pour ceux qui vous ai retenu un peu trop longtemps pour ça, puis il y en a qui étaient déjà partis, là. Ça nous est dit que Dieu a créé des animaux après qu'Adam soit créé. Il a créé des animaux pour qu'Adam puisse constater qu'à travers ces animaux-là, il n'y avait pas de compagne pour lui. Puis Adam a même nommé les animaux. Mais si on va voir le chapitre 1, les animaux sont créés avant Adam et non après Adam, OK, dans la suite des événements du chapitre 1. Donc, deux explications pour démontrer que c'est pas nécessaire, que c'est pas une contradiction. Première chose, c'est pas celle que je favorise, mais elle est possible. J'ai pas fait des études grammaticales en hébreu, mais c'est possible. Si on vous allez, si vous tournez avec moi dans le chapitre 2 au verset 18, 19 et 20. L'Éternel Dieu dit, dans verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Verset 19, « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. » Et là, on a la création de la femme après. OK. Donc, dans l'hébreu, on pourrait traduire verset 19, « Alors Dieu avait formé du sol toutes sortes d'espèces d'animaux. Alors Dieu avait. » Donc, comme je vous ai dit, les hébreux ou la pensée hébraïque n'est pas autant concernée avec la suite. La suite des événements A avant B avant C avant D. Des fois, ils font des retours en arrière avant de t'exprimer ce qu'ils vont dire maintenant. T'sais. C'est que dans ce cas-ci, ça pourrait juste être en train de dire, là, c'est pas bon que l'homme soit seul, mais Dieu avait créé des animaux puis tout ça. C'est que Dieu a fait venir de ces animaux-là en avant d'Adam pour qu'il les nomme, puis qu'il constate par lui-même qu'il n'y avait pas aucun de ces animaux-là qui pouvait éventuellement être sa compagne. C'est que ça pourrait être traduit comme ça dans les temps de verbe, OK? Première chose. Fait que comme ça, ça règle, pas que ça règle le problème, c'est qu'on a tordu le texte parce que le texte permet cette traduction-là. Okay? J'ai pas fait l'étude personnelle, je me suis fait à quelqu'un qui le disait. L'autre affaire, c'est que je crois pas que ce soit nécessaire non plus. Je pense encore là qu'on peut juste rester chronologique dans le chapitre 2. Moi, je serais très à l'aise parce que déjà, dans le sixième jour de la création, on a déjà vu que Dieu a créé le jardin d'Éden dans le sixième jour. Entre autres, les végétaux qu'elle a été appelée à être cultivés par l'homme ont été créés dans le sixième jour. C'est que Dieu n'a pas juste créé les animaux terrestres puis l'homme et la femme dans le sixième jour, comme le chapitre 1 nous dit. Mais il a fait plus que ça. Le chapitre 2 nous dit bien des détails. Entre autres, il a créé le jardin d'Éden. C'est que je serais bien à l'aise. Moi, je serais bien à l'aise ici, que Dieu, pour simplifier la chose, il est encore dans le processus de création, forme une certaine quantité d'animaux ici, puisqu'il n'a pas tout créé les animaux terrestres au complet. Vous comprendrez, là, si vous relisez le texte comme il faut, Dieu forma du sol tous les animaux des champs. C'est encore la même expression qu'on parlait des herbes des champs, puis on avait lu là, verset 5 du chapitre 2, les herbes de la campagne, c'est la même expression dans l'hébreu, c'est les animaux domesticables, les animaux qui allaient être utiles pour l'homme, qui étaient plus faciles d'approche, plus faciles à utiliser à ses propres fins. Donc, il n'y a pas de créer tous les animaux terrestres qui sont mentionnés dans le chapitre 1. Ça, c'est clair juste avec l'appellation ici. Et les oiseaux du ciel. Puis, à quelque part, c'est assez logique. Je veux dire, si Adam était pour trouver une compagne, c'était à quelque part dans ces animaux-là, qu'elle allait être plus près de lui déjà dans sa vie de tous les jours, puis les oiseaux. Tu veux dire, les poissons, on s'entend, là, les amphibiens, puis tout le reste là, qui rampent à ras-le-sol, puis les insectes, puis les animaux des grands terres, là, ceux qui ont besoin d'espace, puis qui courent partout. Ben, tu sais, il y a plus de chances qu'ils s'entendent avec du bétail, admettons, même si ça a plus ou moins de sens. Il y a plus de sens. Plus de chances. Donc, moi, je suis très à l'aise ici dans le texte que Dieu peut bien juste décider, regarde, je te reforme, je te recrée drette là, un membre de chacune de ces espèces-là, puis j'ai fait défiler devant toi. Autrement, l'autre option, c'est d'aller en chercher une coupe à grandeur comme à l'Arche de Noé, là, puis les faire venir de où est-ce qu'ils sont, faire un beau petit voyage pour venir défiler devant les yeux d'Adam pour qu'il les nomme. Logistiquement, Dieu peut tout faire, mais il y a quand même juste 12 heures de clarté dans la journée, plus ou moins, je sais pas. Fait que bon, moi je suis bien à l'aise avec ça, je pense pas que le texte nous empêche de dire ça, d'autant plus que, comme je vous ai dit, c'est pas tous les animaux qui sont mentionnés. Puis la formation ici que Dieu fait, la création, c'est à partir du sol. Si vous allez dans le chapitre 1, vous allez remarquer que les oiseaux du ciel ont été créés au cinquième jour, puis que c'est pas mentionné qu'ils ont été créés à partir du sol au cinquième jour. Ils ont été créés dans le contexte des animaux aquatiques. C'est au pire, si ils ont été créés à partir de quelque chose, dans le cinquième jour de la création, au pire, ça serait à partir de l'eau. Puis encore là, c'est pas clair. Tandis qu'ici, on parle vraiment que les oiseaux ont été créés en même temps que les animaux des champs à partir du sol. Vous comprenez, c'est que c'est comme si on parlerait d'une autre création que celle du chapitre 1. C'est que moi, c'est ça qui fait en sorte que j'ai plus tendance à penser que c'est un autre événement dans le jour. Puis il n'y a rien d'extraordinaire en passant. Là, si c'est, comme je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire. On est dans la semaine de création. Dieu passe toutes ses journées à créer des trucs, des animaux, il crée à partir de rien ou à partir de quelque chose. Ce serait juste un autre. Puis son but ici est très clair. Son but, c'est que Adam se rende compte qu'il n'y a pas de compagne pour lui dans la création actuelle. Et là, Dieu va faire une première anesthésie. Donc, la douleur, c'est une bonne chose. La douleur, c'est une bonne chose dans la création parce que, au pire, ça n'aurait pas été super cool pour Adam de voir ce que Dieu est en train de faire comme opération comme ça. Puis, je pense pas que ça faisait pas mal. C'est que, je suis pas sûr que je pense que vous en avez déjà parlé. Je suis pas sûr que la douleur, c'est pas mauvais. Quand tu te fais mal, tu réagis à ce que tu t'es fait puis tu te protèges après. Si t'es pas conscient du mal que tu t'es fait, entre autres, la lèpre, c'est ça. Vous savez, le problème de la lèpre. La lèpre, c'est une insensibilité à la douleur. Puis souvent, pourquoi les gens perdaient leurs membres, puis perdaient souvent les doigts puis les orteils, c'est que tu veux dire, tu peux avoir une infection, tu peux te lacérer un orteil, puis t'en es nullement conscient, ça te fait pas mal. L'infection pogne là-dedans, ou peu importe. Puis, une année, tu perds carrément ton organe. Dans le processus de détérioration, t'as même pas mal. Comprenez? C'est qu'en réalité, la douleur, c'est positif, tu sais. C'est positif parce que tu remédies. Maintenant, la guérison peut être très rapide dans le contexte de la création originelle. La guérison devait être ultra rapide considérant tout ce qu'on a vu là. Mais c'est pas nécessairement mauvais. Donc, je vous dis ça là, c'est que Dieu fait une anesthésie, prend une partie de chair, une partie d'os du côté d'Adam, puis forme la femme à partir de ça. Puis c'est pour ça qu'Adam va dire, voici les zones os de mes os. Et chair de ma chair, parce que c'était carrément pas juste une côte en passant, là, c'était vraiment le mot hébreu, c'est un morceau de chair et d'os. Puis Adam va lui donner le nom d'Ève en référence à. Non, il va lui donner le nom de femme. Isha, Ish. Homme veut dire Ish, Ish veut dire homme, puis Isha veut dire femme. C'est que vraiment l'idée que les deux sont une seule chair. Puis là, après ça, là, il y a institution du mariage à ce point-là. C'est que là, si je commence, je vais m'étaler trop loin. Fin du chapitre 2. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'à ce point-ci, on va aller tout de suite voir la prophétie sur les deux postérités. Pour commencer, voir le fil conducteur dans le chapitre 3. Donc, création de la femme. Là, je vous fais un petit résumé rapide. Ça n'a pas dû être très long en passant avant que Satan intervienne. OK? Encore là, je ne veux pas m'étendre. OK? Mais il y aurait des beaux textes qui nous montrent que probablement que les anges auraient été créés même durant la semaine de création. Mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce qu'on perd beaucoup de temps. Mais il y a des textes. Dans mes notes, vous le verrez au pire. Puis même s'ils ont été créés dans la semaine de création, les anges, ça veut dire que Satan n'avait pas encore tombé. Ça veut dire que Satan était bon. On sait qu'il était bon au début. Dieu n'a pas créé Satan comme il est. Puis on a des textes prophétiques dans Ézéchiel, entre autres, qui nous font clairement référence à la chute de Lucifer. Bon. Ça n'a pas dû être long une fois que Satan tombe. Ça n'a pas dû être long non plus que Satan tombe. Okay? Parce que quand tu crées quelqu'un qui est libre de t'obéir ou non, le test de probation, le test d'obéissance, ça ne va pas prendre 2 millions d'années avant qu'il arrive. Là. T'sais, je suis capable de libre arbitre. C'est assez vite à un moment donné que je décide. La possibilité de ne pas suivre vient assez vite. Okay? C'est qu'au pire, là, je suis philosophe, là, mais au pire, Adam, Satan, ça n'a pas été long. Pour les anges, pour eux, de prendre une décision, est-ce qu'on se rebelle contre notre créateur, puis qu'on suit Satan, ou non. Ça, c'est une décision one-time deal pour eux autres, parce que c'est pas des êtres c'est pas une race là, qui se reproduit. Là, okay? Ils ont été créés one-shot là, par je sais pas combien de myriapodes, de myriades, là, mais ça a été fait, puis il y en a qui ont décidé de suivre, il y en a qui ont décidé de pas suivre. Satan arrive dans le portrait, c'est pas long que Satan veut détruire l'œuvre de Dieu, c'est que ça ne prendra pas une éternité avant d'aller sa planète, parce que Dieu a déferlé son amour sur l'être humain, il vient de créer, donc Satan vient dans le portrait, possède un serpent, puis il vient tenter Ève. Et donc, ça n'a pas dû être long à ce que ça arrive, ça n'a pas dû être long non plus pour Adam et Ève à se faire face à ce choix-là. Ils n'ont pas eu encore l'occasion d'avoir même des enfants. Et c'est là mon indice à moi que ça a dû être vite, parce que Dieu leur a dit de procréer, OK? C'est qu'on s'entend-tu, il était déjà adulte, il était prêt à toute la patente, c'est que... Il n'y avait pas grand raison, parce qu'il y avait un commandement à obéir, de remplir la terre, là, que ça leur prenne 15 ans à décider à un moment donné de, tu sais, bon, OK. C'est que, il n'y avait pas non plus de moyen de contraception. Fait que là, ceci étant dit, ça n'a pas dû être long. Puis d'ailleurs, le péché est entré par Adam. OK, s'il y avait déjà eu un enfant avant qu'il ait le péché, là, il n'y aurait pas eu la nature pécheresse, ça ne serait pas donné à cet enfant-là. C'est par Adam que le péché est entré dans le monde. C'est que Caïn, au pire, c'est, je m'en rappelle plus, c'est clair dans le texte, c'est le plus vieux ou c'est pas le plus vieux, il faudrait revoir. Mais bon, Satan arrive, il tente Ève se laisse tenter, elle donne du fruit à Adam, décide de dire, il regarde sa femme, dit, bon, ça a l'air cool ce qu'elle a fait, moi le faire moi avec. Il fait, il pêche les deux, bon. Au moment où le péché est fait, il y a une rupture qui s'établit avec Dieu, on le voit dans le texte, ils se cachent, ils ont honte, ils se sentent coupables. Dieu vient, où êtes-vous? Il fait parler Adam, il fait parler à Adam. Après ça, Adam, il répond, c'est super poche, ses réponses, on voit déjà le péché là, de tout changer. Là, je veux dire, il y a de l'insolence, il y a de la honte, il y a mettre la faute sur l'autre. Dieu, à chaque fois qu'il se fait répondre ça, Dieu, dans le texte, c'est pas là. Hey, mon mot t'a dit, excusez-moi, c'est pas bon. Hey, prends le blâme pour toi, il dit pas ça, Dieu. Il se tourne, il va voir Ève. Puis, mais, tu sais, Dieu est en train d'être gracieux, puis aussi d'enseigner l'homme dans sa propre réaction. Puis Ève, bon, mais elle, elle suit le modèle, bon, elle va mettre la faute sur le serpent. Puis le pauvre serpent, il est plus capable de parler. Satan est parti de lui, c'est que lui, il a rien à dire. Lui, au pire, le serpent va servir d'un beau, le serpent, là, la conséquence du serpent, là, c'est certainement un bel outil que Dieu a utilisé pour établir un souvenir pour l'homme et la femme. De voir pour un animal qui a été transformé de ce qu'il était avant, maintenant ce qu'il est devenu, c'est un rappel de ce qui s'est passé, c'est un rappel de la tentation puis du fait qu'ils ont péché. Tu sais. Puis il y a quelque chose de constructif pour eux d'avoir ce rappel-là, comme avec l'arc-en-ciel plus tard après le déluge. Donc, péché, Dieu établit des dieux... Dieu, et là, ça, je veux qu'on la regarde ensemble parce qu'on va discerner la grâce de Dieu, même dans la façon que Dieu va gérer les conséquences du péché. Comme je vous ai dit, Dieu arrive avec une attitude où ce qu'il questionne, puis il veut que l'homme admette son propre péché, puis l'homme soit conscient. Dieu, au verset 9, chapitre 3, « Où es-tu, Adam? » Il laisse Adam répondre, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, puis j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. » C'est sûr qu'en disant ça, Dieu était déjà au courant du péché qu'Adam venait de commettre, mais Adam peut admettre de ce qu'il a fait. C'est qu'on voit déjà l'attitude de Dieu là-dedans. Maintenant, Dieu, par la suite, va donner des conséquences. Évidemment, il avait déjà prévenu qu'il allait avoir conséquences s'il y avait désobéissance. Il avait dit, vous allez mourir si vous prenez de l'arbre. Donc, il avait déjà prévenu, il avait déjà conséquences. Dieu fait juste établir sa justice comme il l'avait promis. Maintenant, même dans les conséquences que Dieu donne, c'est des conséquences qui sont correctives. C'est-à-dire, Dieu, son but, là, c'est pas juste de faire du mal pour faire du mal, c'est de corriger le mal pour avoir du bien de la part de l'homme et de la femme. Et même dans les conséquences qu'il va donner, pour chacun d'entre eux, il y a quelque chose de beau dans chacune des conséquences. Dans le sens que oui, la femme va avoir un dur labeur pour accoucher. Mais elle va quand même accoucher. Puis elle va quand même avoir la joie de vivre ça lorsque ça l'arrive. Malgré maintenant que ça sera plus ça se vivra plus facilement. Mais il va avoir quand même la joie de l'accomplissement. Même façon avec l'homme. Et la femme aussi. Mais l'homme qui est appelé dans la conséquence maintenant à labourer le sol, travailler le sol de peine et de misère. Parce que le sol donnera plus comme il était supposé de donner facilement de ses produits. Mais l'homme va quand même avoir des produits du sol, tu sais, je veux dire, il va quand même récolter, mais après un dur labeur, tu sais. C'est que c'est pas, oui, c'est des conséquences qui vont faire en sorte que l'homme et la femme vont se rappeler, hey, si je souffre pendant que j'accouche ou que je vis ma grossesse, c'est parce que j'ai désobéi. Il y a une idée aussi d'un rappel pour la rappeler à tes enfants, pour te le rappeler à toi-même, tu sais, c'est correctif. Mais le résultat est là, pareil, Ève va être capable de donner vie. Même chose pour Adam puis les peuples qui vont suivre par la suite. Ça va être difficile de travailler la terre, mais ils vont se rappeler que Dieu quand même, ils vont se rappeler du péché qui a été commis, mais ils vont se rappeler que Dieu est bon quand même. Ils peuvent réussir à sortir quelque chose de la terre. Puis on va le voir lorsqu'on va arriver avec le père de Noé qui s'appelait Lémec. Ça va être une des choses qu'il va dire dans sa prophétie. Il va dire, oui, Noé, c'est parce que le nom Noé veut dire espoir, il faudrait que je revoie. Il dit, Dieu m'a donné un fils qui va ramener de l'espoir dans la race humaine, parce que jusqu'à maintenant, on travaille les durs labeurs, c'est difficile de travailler la terre, puis on se rappelle, c'est parce qu'on tu sais, Lémec lui-même était un homme de Dieu, il se rappelait que c'était la conséquence du péché. C'est qu'il n'était pas en train de cultiver la terre en se vantant de sa propre technologie, mais il se rappelait que Dieu avait puni. C'est qu'on voit encore dans les conséquences, certainement, la grâce de Dieu, qui instruit l'homme à travers ça, il instruit la femme. Maintenant, on arrive avec la promesse importante. C'est certainement le texte pivotal, c'est le verset pivotal dans le début des chapitres, dans le début de Genèse tout du moins, sinon dans Genèse presque au complet. On tombe au verset 15 du chapitre 3. C'est un verset, on pourrait passer énormément de temps dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux qu'on se concentre sur la prophétie. Donc, Dieu parle à Ève à ce point-ci. Il parle à Ève. Je mettrai inimitié entre toi... Excusez-moi. Il parle au serpent à ce point-ci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Moi, dans ma version, c'est marqué « écrasera le talon ». Dans vos versions, c'était écrit quoi? « Blesser le talon », c'est ça. Dans la mienne, ils ont écrit « écrasera ». Bon. Donc ici, évidemment, là, on fera tout un cours de théologie, mais il n'est pas en train de parler aux serpents puis à tous les petits serpentins qui vont naître dans le futur puis qu'il va y avoir une guerre entre les femmes, surtout que les femmes ont peur des serpents aujourd'hui. Là. C'est pas ça l'interprétation. Puis on pourrait aller voir des textes dans le Nouveau Testament. Là, je pense que je les ai écrits ici, là. Comme quoi, parce que dans le texte de la Genèse, vous comprendrez bien que c'est pas clair que le serpent, c'est parce qu'il est possédé par Satan à ce point-ci qu'il parle. Ça nous dit juste que le serpent est venu et qu'il a tenté Ève. Mais si on voit dans le Nouveau Testament, pour rester dans la Bible qui s'interprète elle-même, on peut aller, mettons, dans Apocalypse 12:9, quand ça parle de Satan dans Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » C'est clair ici qu'on a une référence à Genèse 3, dans Apocalypse. Et on pourrait aller voir dans Jean 8, où est-ce que Satan est appelé, le diable est appelé le père du mensonge. Il a été menteur dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement, puis il est le père du mensonge. Puis là, on pourrait étudier c'est quoi que dit à Ève. Dans les mots que tu disais pour parler à Ève dans la tentation, c'est rempli de mensonges, c'est rempli de demi-vérités. Il y aurait beaucoup de choses à sortir de ça, au pire, on y reviendra. Donc, clairement ici, quand il parle de la postérité du serpent, en réalité, quand il parle au serpent, quand il parle de la postérité du serpent, c'est de tous ceux qui sont les enfants du diable, à la manière du diable, qui font les œuvres du diable. C'est le même enseignement que dans le Nouveau Testament, ce qu'on parle de lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable, parce que c'est le diable qui est le prince de ce monde, qui est le Dieu de ce siècle. Le Dieu avec un petit dé. Et dans ce sens-là, ici, la postérité du serpent, qui va être en opposition avec la postérité de la femme, c'est tous ceux qui, à l'exemple de Satan, se rebellent contre Dieu ou décident de prendre leur vie en main. On s'entend, si on va voir dans Ézéchiel, le péché de Satan à la base, c'est un péché d'orgueil, c'est un péché qui a décidé que Dieu n'était plus digne de confiance. Moi, je comprends les affaires, puis moi, je vais m'occuper de ma vie comme moi, je le comprends. Puis Satan a décidé de s'élever au-dessus de Dieu dans ce fait-là, qui a décidé que lui allait gérer les affaires. Puis c'est un peu ça qu'il a proposé ici à Adam et Ève, quand il est arrivé à Ève, il dit, écoute, vous n'allez pas vraiment mourir, là. Dieu, c'est pas vrai. Là. Dieu veut juste se protéger pour pas que vous soyez comme lui. Moi, je vous le dis, mangez-en, vous allez être comme lui, vous allez être hot, puis vous allez pouvoir prendre dans le fond, vous allez pouvoir être en charge de vos propres affaires, puis vous n'aurez plus cette interdiction-là à suivre. Il en avait juste une, là, mais Satan a réussi à proposer la même affaire que lui-même par laquelle il vit sa propre vie. C'est que c'est encore cette idée-là, c'est de vivre sa vie en ne faisant pas confiance au Créateur, en se faisant confiance à nous-mêmes. Pis c'est ça qui marque le diable, c'est ça qui marque la personne qui n'a pas mis sa confiance en Christ, qui n'a pas mis sa confiance en Dieu, elle l'a mis en qui? Elle l'a mis en elle. Elle s'est bâtie son propre Dieu, peu importe. OK, donc la postérité du serpent ici, c'est vraiment ça l'idée. Maintenant, la descendance de la femme, quand il parle qu'il va avoir inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, on s'entend bien que toutes les gens vont naître de Ève, OK? C'est que tout le monde va naître de Ève, donc la descendance de Ève, ce serait au pire, ça inclut ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur que ceux qui marchent avec l'Éternel. Mais dans le texte ici, c'est clair que l'idée, je pourrais en faire une grosse étude, c'est vraiment on va le voir parce qu'Adam et Ève, c'est clair qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, en l'Éternel. Après cet événement-là, Adam et Ève se sont confiés en Dieu. On va le voir, on a des indices très clairs dans le texte. Contrairement à Caïn, Adam et Ève, on peut se rappeler d'eux comme les premiers qui ont péché. Mais c'est les premiers aussi qui ont accepté la grâce de Dieu puis qui ont décidé d'invoquer le nom de Dieu par la suite. On a plein d'indices. Puis dans ce sens, la descendance d'Ève, parce que lorsqu'on lit la prophétie, de sa descendance va venir le Messie à un moment donné. Donc on parle vraiment de la descendance de ceux qui invoquent l'Éternel jusqu'à temps qu'on arrive au Messie Jésus. Puis là, on pourrait aller voir dans Matthieu puis voir toute la descendance de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Mais ça passe par Seth. Puis Seth, c'est celui des fils d'Adam qui va invoquer, c'est sa descendance à lui qui est réputée d'avoir invoqué l'Éternel. Donc il y a vraiment ici l'opposition que Dieu déclare, que Dieu le prophétise, c'est que à partir de maintenant, l'histoire de l'humanité va être marquée par l'opposition en deux classes, on veut, en deux descendants. Ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, puis ceux qui, à la manière de Satan, font à leur propre tête, puis qui n'invoquent pas le nom de Dieu, qui ne mettent pas leur confiance à Dieu, puis ça se reflète jusqu'à aujourd'hui. Verset 15. C'est que c'est vraiment ça, puis on pourrait aller voir dans les pronoms vers la fin du verset. Au lieu de parler de la descendance d'Ève, comme la descendance, il est rendu que dans l'hébreu, ça utilise le pronom masculin singulier. Il y a vraiment un bel indice que la descendance, ultimement, c'est un Messie qui va arriver. On le voit dans le texte, plus en hébreu, même en français, là, dans certaines versions, c'est assez clair. Donc, conséquence du péché. C'est quoi les indices qu'on a pour dire que le... qu'Adam et Ève ont certainement décidé de marcher avec Dieu suite à leur péché, qui ont été repentants, puis qui ont mis leur confiance en Dieu, puis dans le moyen que Dieu allait mettre pour leur salut. Parce que dans la prophétie, ici, on a clairement une allusion à un jour, de la descendance de la femme, le serpent va être vaincu, sa tête va être écrasée. Dieu est en train de prophétiser, il va y avoir rédemption un jour de votre condition actuelle que vous venez de causer par votre péché. Il va y avoir solution un jour. Un jour, ce serpent-là qui a semé le trouble, bien, sa tête va être écrasée. Il y a une prophétie, c'est que t'es Adam, t'es Ève, t'as le choix, là. Tu crois Dieu, est-ce que vraiment un jour on va avoir rédemption de ce problème-là, ou tu crois pas Dieu, t'as le choix, là. Parce que là je veux dire, tu te fais chasser du jardin, tu peux faire ce que tu veux, t'es un être libre, là. Tu peux, comme Caïn, t'en aller puis te bâtir une ville puis développer tes affaires. Ou tu peux décider de mettre Dieu dans ta vie tous les jours puis de l'invoquer puis de faire ce que Dieu t'a dit. Parce que là, vous entendez qu'on n'a pas toute l'information ici. Dieu a certainement dit bien plus d'affaires qu'on en a ici à Adam et Ève. Avant qu'ils pêchent comme après qu'ils pêchent. Dieu a dû avoir des discussions avec eux puis parler de certains trucs. On va le voir, mais qu'on arrive avec Abel. C'est que tu as le choix, dans le fond, de suivre ou non, rendu à ce point-ci, là. C'est que... Qu'est-ce qui nous fait penser les indices dans le texte? Premièrement, au verset 20, après que Dieu a donné toutes les conséquences à la femme et à l'homme, on arrive au verset 20, l'homme donna à sa femme le nom d'Ève. C'est la première fois que c'est mentionné. Car elle a été la mère de tous les vivants. Puis dans le mot Ève, en hébreu, veut dire vie. Déjà ici, on a un indice quand même assez clair, lorsqu'on comprend dans le contexte que Dieu vient de dire que à travers la descendance de Ève, il va avoir du salut à un moment donné, il va avoir le salut, il va avoir le Messie. Puis Adam, sa réaction éventuellement, c'est de donner le nom à sa femme, le nom de vie. C'est clairement un indice, une référence à la promesse qui vient d'être dite, la promesse de la vie qui va descendre, qui va sortir de Ève. Et Adam fait Adam nomme sa femme avec une référence à cette promesse-là. Deuxième chose, le verset 21, ça c'est... je pense qu'on a un bel exemple ici, un beau symbole de ce que c'est la foi. Ici, ça s'est passé pour vrai, mais on a un beau symbole, si on veut, de quelque chose qui représente ce que c'est la foi. Première réaction, quand ils ont constaté leur nudité, Adam et Ève, puis qu'ils avaient honte de ça, eux-mêmes sont allés scouter des feuilles de figuier, puis ils se sont habillés avec ça, OK? Puis là, on a juste un petit verset qui rapidement nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » On n'a pas ici, dans le contexte, on voit pas de rébellion chez Adam et Ève. On voit pas du remords mal placé, autre chose que de la repentance. Si vous allez voir Caïn, après que Caïn se fasse réprimander, Dieu, vous irez voir ses réactions à Caïn. Caïn, c'est pas ça qu'on a. Ben là, c'est ben trop tough, là, ce que tu donnes que conséquence. Si tu me laisses partir, ils vont me faire tuer par le premier venu. C'est ça que Caïn dit à Dieu, là. Parce que Dieu, il dit, tu vas errer ça et là, tu trouveras pas un point de repos. Puis Caïn, même dans sa réponse à Dieu, il est super insolent quand Dieu lui demande où est ton frère. Il dit, suis-tu le gardien de mon frère? Voyons donc. Le gars, il est pas devenu insolent, OK? Même avant qu'il donne son offrande à Dieu, Caïn était certainement pas, il n'a pas décidé de plus faire confiance à Dieu parce que Dieu n'a pas aimé son offrande. Dieu, Caïn, il faisait déjà pas confiance à Dieu, même avant de donner son offrande. On va le voir dans le Nouveau Testament, ça le confirme. Puis sa réaction d'insolence est assez claire à ce niveau-là. Puis quand Dieu donne les conséquences, parce que Dieu aurait pu bien pu le terrasser d'une flamme à ce moment-là, tu sais, quand il se plaint plutôt de son manque de protection, tu sais, il se plaint pas de « Ah, j'ai péché, puis tu sais, la repentance, non. » Puis Dieu, dans sa grâce, va faire quoi? Il va mettre un signe sur Caïn pour le protéger, pour lui dire, il va avoir un signe, on ne sait pas c'est quel signe, qui disait que si quelqu'un touche à Caïn, il va être vengé 7 fois. Ça veut dire, Caïn, Dieu l'Éternel a mis sa protection sur lui, c'est touchez-y pas. C'est que c'est une belle grâce envers Caïn qui vient de faire ça, là. Puis même, on va voir, là, je vais en avant de mon temps ici, là, mais Lémec, qui est un des descendants de Caïn, va d'ailleurs faire référence à cette promesse-là de Dieu, qui Dieu a promis de protéger Caïn. Les mecs, quand vous allez lire Genèse 4, va dire à un moment donné, Caïn a été promis d'être protégé 7 fois. Vengé 7 fois, dis-moi, je vais être vengé 77 fois 7 fois, quelque chose dans le genre. Les mecs est un homme très orgueilleux. Mais cette connaissance-là était là de la protection de Caïn. Vous voyez, on ne voit pas ça ici. Adam et Ève, on ne voit pas cette attitude-là. Plutôt, on voit une attitude, il nomme sa femme, il la nomme vie. Après ça, on voit l'attitude, Dieu les revêt d'un habit, puis ils reçoivent ça. Là, eux, ils étaient habillés en figue, ils n'ont pas décidé de partir dans la honte, puis dans la culpabilité ou dans la rébellion. Ils reçoivent les habits de Dieu, puis ils les revêtent, OK. Donc, belle image ici, là, parce qu'on pourrait, tu sais, soit qu'on veut s'habiller de notre propre justice, soit on veut revêtir la justice de Dieu. Il y a plein d'images au niveau des habits de justice, même dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la première mention des habits de peau. Dieu lui-même a dû tuer. C'était la première fois qu'un animal était tué dans le récit de la création. Puis c'est Dieu qui l'a fait. Il a tué un animal pour avec les habits qu'il a fait des habits de peau avec pour les offrir à l'homme. Je pense pas que ça serait d'aller trop loin, mais je vous présente pareil la réflexion. Lorsqu'on voit dans Hébreux, on apprend que pour avoir pardon des péchés, c'est quoi ça prend? Dans Hébreux, ça prend effusion de sang. Ça. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Puis c'est un principe qu'on voit dans la loi mosaïque là, de A à Z. Il faut toujours qu'il y ait effusion de sang. Il faut toujours qu'il y ait sacrifice avec du sang qui coule pour qu'il y ait pardon des péchés, même dans le processus sacrificiel. Là, okay? Dans le processus de justification sous l'Ancien Testament. Et si ce n'est de quoi ici, si ce n'est de quoi, on a un indice que Dieu déjà, avec ce verset-là, puis avec Abel, avait établi certainement des directives relatives à voici maintenant le péché est rentré dans le monde, voici comment vous allez gérer le péché dans votre vie tous les jours. On est avant la loi de Moïse ici, comprenez-moi bien, sauf que Abel et Caïn sont venus offrir des offrandes à l'Éternel. C'était quelque chose qui semblait être normal de faire, d'offrir des offrandes à Dieu. Donc, il nous manque un bout d'enseignement de la part de Dieu à Caïn, à Abel, à Adam et Ève, à toute la gang. C'est qu'il y avait déjà un enseignement à quelque part, puis c'est clair que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur l'offrande de Caïn. Pas parce que Dieu préfère, Dieu aime pas les fruits, là. C'est pas ça, là. Puis on va aller voir dans le Nouveau Testament, c'est parce que Abel a été soumis à Dieu, puis Abel suivait les directives, il a fait confiance que Dieu, qu'est-ce qu'il aime, Dieu, ce qu'il veut dans une offrande, c'est une effusion de sang, c'est ça que ça prend pour pardon de péché, puis Abel, dans son attitude, était un homme qui avait foi en Dieu. On va aller voir des versets. Caïn, dans son attitude, était un homme qui n'avait pas foi en Dieu, puis il est arrivé avec sa propre façon de faire à lui. Puis c'est ça qui a fait que Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, parce que c'était une offrande qui venait pas, qui n'était pas selon le cœur de Dieu, mais était selon le cœur de Caïn. Comprenez? C'est ça l'idée de la descendance qui ne suit pas Dieu. C'est une descendance qui n'a pas foi en Dieu, qui ne marche pas par la foi, qui ne fait pas confiance à Dieu, qui se fait confiance à soi-même. Comprenez l'idée? C'est qu'on a ici Adam et Ève, toutefois, que ce n'est pas ça qui ressort de leur attitude. On peut même aller voir plus loin. Si on va plus loin, au verset 25 du chapitre 4, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est intéressant. Ève, elle accouche, OK? Elle a un fils. Sa première réaction, là, c'est de penser à Dieu. Sa première réaction, c'est pas hey, j'ai un autre enfant, c'est super cool, ben. Dieu m'a donné un autre enfant. Vous voyez, Dieu est au. Puis là, on parle, c'est plus, pas mal plus, tu sais, au moins une couple d'années plus tard là, que le péché. Adam et Ève, Dieu est présent dans leur vie, puis même dans des moments importants comme l'accouchement, comme la venue d'un nouvel enfant, c'est ça qui ressort de la bouche d'Adam et de la bouche de Ève, excusez-moi. Dieu m'a donné notre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Et après ça, au verset 26, ça nous est dit que Seth, qui est cette nouvelle descendance-là, a lui aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est intéressant. Seth a un fils, Enoch, le petit-fils d'Adam et Ève, puis c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel à travers la descendance de Seth. Et puis, on pourrait voir un dernier verset. C'est tous des versets pour vous montrer ici qu'Adam et Ève, certainement, se sont repentis et ont mis leur confiance en Dieu. Verset 3 du chapitre 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Puis on vient juste de lire que c'est à travers la descendance de Seth qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ici, l'expression que Adam a eu un fils à sa ressemblance, c'est vraiment dans l'idée qu'à la ressemblance d'Adam, Seth marche avec Dieu. Puis on va voir dans le chapitre 5 que les descendants de Seth marchent avec Dieu. Enoch a été enlevé au ciel avant de mourir. Là. Il était connu comme un homme qui marchait avec l'Éternel. C'est un des descendants de Seth, Enoch. Lémec, le père de Noé, est un des descendants de Seth. Noé est un des descendants de Seth, évidemment. Donc, on a ici Ève et la personnification de ce que c'est de marcher avec Dieu. On a sa descendance et les gens qui ressemblent à Ève et qui marchent avec Dieu. Et là, on arrive au chapitre 4. Je voulais vous lire des versets du Nouveau Testament juste pour backer ce que j'ai dit au niveau de Caïn et Abel. C'est des super bons versets, puis ça éclaire le texte de Genèse 4. Hébreux 9, 22, c'est le texte que j'ai mentionné tantôt, je le relis là, pour avoir les vrais mots. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est le verset que je vous avais mentionné, verset 22, chapitre 9 de Hébreux. Et on va lire ça ici, OK? Je lis les cinq premiers versets du chapitre 4, puis je vais aller lire dans Hébreux, puis dans 1 Jean, pour compléter. Verset 1 du chapitre 4. « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Oui, Caïn, c'était le premier enfant d'Adam et Ève en passant. Juste le nom qu'elle lui a donné, là, c'est comme si... Encore là, on a un exemple de la marche de Ève. Premier enfant qu'elle a, elle reconnaît avec l'aide de Dieu qu'elle l'a eu. Parce que c'est la première fois qu'elle expérimente ça, puis elle vient juste d'avoir une conséquence comme quoi que ça allait être rough. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, Caïn, certainement l'aîné de la famille. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc évidemment, si Abel était berger, il n'y a pas grand raison d'être berger à l'époque si tu n'avais pas le droit de manger de la viande. Bien, tu étais berger soit pour t'habiller avec la laine, OK, ou à faire des habits de peau. Là, Dieu venait juste de te donner des habits de peau. C'est qu'à quelque part, il y avait certainement une autorisation de s'habiller avec des habits de peau si Dieu t'en avait donné. Puis l'autre chose, si Dieu a bien reçu l'offrande d'Abel, c'est qu'il était bien à l'aise. Dieu, est-ce qu'on tue des animaux pour lui offrir des offrandes? Okay? C'est qu'à quelque part, si Abel était berger, c'est parce qu'il avait besoin d'animaux à tuer. OK, aussi. Oh, oui, la laine, exactement. Puis ben, tu peux faire d'autres choses avec la laine aussi. Hein. C'est que... Mais là, allons lire les textes dans le Nouveau Testament après le verset 3 à 5. Là. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, ça semblait être quelque chose d'habituel de faire des offrandes. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Juste comme ça, là, si on lit le texte, pourquoi Dieu a préféré un de l'autre? Allons voir dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, 4. La réponse est super claire, là. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle que Abel parle encore aujourd'hui, quoique mort. C'est que là, on a vraiment une lumière sur ce qui s'est passé à l'époque. Abel, quand il était en train d'offrir son offrande, c'était de la foi qu'il exprimait à Dieu, donc il était en train d'obéir à Dieu. Parce que Dieu lui avait demandé que c'est de même que ça allait se faire, puis c'est de même qu'il le faisait parce qu'il faisait confiance que Dieu savait mieux que lui qu'est-ce qui était bon. Vous comprenez l'idée? Il me semble que je dis souvent ça matin, vous comprenez l'idée. On va me contrôler. 1 Jean 3, un autre texte. c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On fait une belle référence pratiquement aux deux descendants ici. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3:10. On continue verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Même dans le Nouveau Testament, Caïn est un exemple de ce que le malin avait fait, ce que Satan avait fait. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres à Caïn étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et c'est pour ça qu'il y a, cette vengeance, cette haine-là de Caïn envers son frère. C'était de lui essayer de bâtir sa vie à sa façon. Ça l'a frustré de voir que Dieu n'a pas agréé sa façon, agréé la celle de son frère. Puis ça l'a amené à tuer son frère, mais parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises. Elle était déjà mauvaise. Même avant qu'il offre il est certainement offert des beaux fruits de son labour, comprenez. Fait que le Nouveau Testament nous éclaire sur Caïn, parce que comme je vous ai dit, Caïn n'est pas devenu de même insolent. Là. On parle qu'il parlait à Dieu, tu sais. Hey, je tue le gardien de mon frère, tu sais. Il me semble que ouais, Monsieur Maltais. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je termine avec ça parce que je vais vous laisser le temps de finir le questionnaire pour ceux qui n'avaient pas fini. Oui, ça n'a jamais changé. Vous savez, aujourd'hui, nous, on est après Christ. Nous, on a vu quel était l'accomplissement de la promesse. On a vu quel était le plan de Dieu de rédemption. Bon, on a vu le Messie. On sait que Jésus-Christ est le Messie. Ça n'a rien changé pour Abel, pour Adam, pour Ève. Eux avaient la promesse du Messie à venir depuis le verset 15. Qu'un jour, la descendance du serpent, sa tête, elle a été écrasée par quelqu'un. Et eux, c'est la même façon que nous, on fonctionne. Aujourd'hui, un jour dans ma vie, j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu pour mon salut, pour ma rédemption, pour régler mon problème de péché. Adam et Ève, ils ont fait le même move que moi, puis Abel aussi. C'est que c'est la foi qui les a sauvés, comme nous, c'est la foi qui nous sauve. Hébreux nous le dit clairement, c'est avec la même foi qu'Abel a été déclaré juste. Même foi qu'Abraham a été déclaré juste, même foi qu'on nous sommes déclarés justes. C'est que il n'y a rien qui a changé, c'est pas la loi qui sauvait à l'époque, ça a toujours été la foi. À ce point ici, on est avant la loi de Moïse. On est loin avant la loi de Moïse. Puis on a un bel exemple déjà de ce que c'est de marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Donc, je termine avec ça. Puis, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas fini de remplir les questionnaires, juste le terminer, puis me l'amener ici, s'il vous plaît.